Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies.
Alors, nous discutons avec Normand Lester, blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec, animateur ici du balado Normand Lester raconte. Normand, Donald Trump qui poursuit sa nièce. Qu'est-ce qui se passe?
Il poursuit 3 journalistes du New York Times pour 100 millions de dollars. Essentiellement, c'est parce que le New York Times a publié en 1918 des documents fiscaux, donc ces documents fiscaux qui montraient que c'est un menteur. Hein? Il prétend être un self-made man. Oui. Et dans ces documents-là, on découvrait que son père lui avait donné plus de 400 millions de dollars et qu'ils avaient passé à travers une société écran pour pas être obligé de payer d'impôts là-dessus. Le New York Times avait ces informations-là. Ils ont publié une série d'articles. Ils disaient que ça leur provenait d'une source confidentielle. Et c'était effectivement des documents d'avocats, donc des arguments et des contre-arguments de bureaux d'avocats. Et lorsque sa nièce Mary Trump a publié un livre en 2020, elle a révélé, oui, c'est moi qui ai donné en grande partie les informations publiées par le New York Times. À partir de ces informations-là, il y a eu des enquêtes fiscales qui ont été initiées, bien sûr, par l'État de New York. Hein? Puis il y a certaines de ces enquêtes-là qui ont des aspects criminels. Donc, tu n'as pas le droit comme ça de... Dans le fond, c'est une fraude fiscale qui est décrite là-dedans. Et Trump va un jour devoir faire face à ces problèmes-là devant les tribunaux. Maintenant, on comprend pas exactement pourquoi il a décidé de poursuivre. Parce que nulle part dans sa poursuite, il dit que les informations qui sont là sont fausses. C'est déjà des documents qui ont été déposés en cours, donc dans des conflits à l'intérieur de la famille Trump. Il dit tout simplement que Mary Trump avait une enquête de confidentialité, qu'elle n'avait pas le droit de donner ces documents-là au New York Times. On verra, bien sûr, ce que les tribunaux en décideront, mais le New York Times a réagi en disant ben, tous les documents qu'on a là sont vrais. Trump ne conteste pas leur véracité. Et puis nous, on considérait que c'était d'intérêt public de montrer justement que Trump mentait au sujet de ses avoirs, au sujet de la façon dont sa fortune avait été constituée. Puis je le souligne, depuis les années 70, Trump est le seul président des États-Unis à avoir refusé de rendre publiques ses déclarations fiscales. Donc, depuis les années 70, tous les présidents des États-Unis, durant la campagne électorale, durant la campagne présidentielle, rendaient publics donc leurs documents fiscaux. Trump a dit, bien sûr, durant la campagne qu'il le ferait, mais bien sûr, il ne l'a jamais fait. Il a trouvé toutes sortes de prétextes ridicules pour pas l'avoir fait. Ben là, le New York Times et Mary Trump l'a fait pour lui. En tout cas, ça va être ça.
Mais Normand, c'est une question morale très intéressante. Jusqu'où tu peux aller pour faire un reportage comme journaliste? C'est-à-dire, est-ce que tu as le droit de publier à son corps défendant les états financiers d'un citoyen? Eux autres disent oui, mais c'est d'intérêt public. Il était président, c'était pas n'importe qui. Mais tu sais, ça pose une sacrée bonne question.
Ben oui, et puis les tribunaux vont devoir répondre à cela. Eux autres ont dit, ben voilà, Trump ment et mentait depuis des années sur ses avoirs, sur comment il avait acquis sa fortune. Il mentait aussi, semble-t-il, sur la façon dont il a déclaré ses avoirs et ses gains, au fisc américain et au fisc de l'État de New York, qui mène actuellement des enquêtes à la suite de la publication de ces documents-là. Donc, on peut dire qu'effectivement, c'est d'intérêt public, d'autant plus que ce type-là a été président des États-Unis et qu'une partie de ces choses-là se sont déroulées pendant qu'il était président. Donc, je pense que l'argument des avocats de Mary Trump et du New York Times va être facile à faire en disant qu'il était dans l'intérêt public des électeurs américains, de la population des États-Unis, de connaître cet aspect-là de leur président. En tout cas, on va voir, mais ça va prendre beaucoup de temps. Les enquêtes de caractère fiscal et de caractère criminel contre Trump vont probablement aboutir bien avant cette poursuite-là au civil.
Et normalement, justement, Trump est parti, mais le problème là, des frontières poreuses entre les États-Unis et le Mexique demeure entier, même s'il n'est plus là. Sauf que là, c'est pas vraiment des immigrants mexicains qui traversent le Rio Grande pour se réfugier aux États-Unis, ce sont des immigrants haïtiens.
C'est un problème, ça va être un des gros, ça a été un gros problème pour l'administration Trump, qui n'a pas réussi à endiguer donc ce flot de demandeurs de réfugiés. Et puis, le problème actuellement est en train de s'accentuer avec Donald Trump. D'abord, il a annoncé durant sa campagne électorale et par la suite, il a pratiqué une politique assez libérale pour permettre à ces gens-là de demander le statut de réfugié. Mais tout ce que ça fait, c'est que ça a augmenté le flot. Et disons-le, dans 90% des cas, ce ne sont pas des vrais réfugiés politiques, ce sont des réfugiés économiques. Que d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu des entrevues qu'on faisait avec les Haïtiens, avec les quelques 10 000 Haïtiens qui sont sous le pont transfrontalier. Ben, il dit, je vais aller rejoindre mon cousin, je vais aller rejoindre ma tante, je vais aller rejoindre mon frère aux États-Unis. C'est bien sûr pour des raisons économiques que tout ce monde-là veut rentrer aux États-Unis, mais là, les États-Unis ne peuvent pas laisser rentrer tout le monde, et puis Biden va devoir probablement bloquer la frontière littéralement ou faire encore de très très fortes pressions sur le gouvernement mexicain pour dire aux Mexicains, hey, arrêtez-les à la frontière sud et laissez pas entrer sur votre territoire des gens qui arrivent manifestement simplement pour transiter vers notre frontière. Hein? Ben, c'est un problème. Le problème de l'immigration des pays pauvres vers les pays riches, ça se pose aux États-Unis provenant de l'Amérique latine, mais ça se pose aussi avec l'Europe en provenance du Moyen-Orient et de l'Afrique, et compte tenu de la situation actuellement dans ces deux régions-là du monde, eh bien, ce sont des problèmes épouvantables, mais c'est des problèmes qui vont continuer à s'accentuer. Puis, à un moment donné, ben, bien sûr, aux États-Unis, comme en Europe, ça fait une réaction des populations qui votent, bien sûr, à droite et à l'extrême droite. Et ce qui se passe, bien sûr, aux États-Unis actuellement, à la frontière mexicaine, ça va aider les républicains aux élections mi-mandat. Ben oui, et ça va peut-être contribuer à ramener Trump à la présidence en 2024.
C'est comme si en se débarrassant de Trump, on se débarrassait de ce problème-là. Ben non, le problème est là quand même. Là, veux dire, il est là, il est persistant. Et d'ailleurs, c'est quoi la chicane entre la France puis les États-Unis là qu'il y a actuellement?
La chicane, écoute, l'Australie demande à la France, parce que la France a une technologie assez avancée au niveau des sous-marins, veut acheter des sous-marins à la France. La France dit, on a des sous-marins nucléaires, on a des avec à propulsion nucléaire, on a des sous-marins à propulsion conventionnelle. Les Australiens disent, on veut avoir des sous-marins à propulsion conventionnelle. Donc, on signe un contrat, là. Écoute, puis c'est quelque chose de l'ordre de 60 milliards de dollars américains. Là, hein? Et puis là, ben, le contrat se développe et puis les ingénieurs adaptent le parce que les Australiens ont des exigences et puis ils disent ben voilà, on aimerait telle modification et tout ça va et tout ça se fait et il y a encore deux semaines il y a eu une rencontre entre les dirigeants de l'entreprise du groupe naval français chargé de développer les sous-marins et des Australiens pour mettre ça au point. Et là, tout à coup, coup de théâtre, à Washington, Biden annonce que les Australiens ne veulent plus des sous-marins français, mais ils vont acheter des sous-marins nucléaires américains et vont s'engager dans un pacte où il va y avoir la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Australie, puis ils vont s'échanger donc des informations technologiques sur les sous-marins, utilisation de logiciels d'intelligence artificielle dans ce domaine-là, tout ça. Puis les Français, je veux dire, ont été tenus complètement à l'écart de tout ça. C'est une gifle monumentale que les Français ont tenue. Puis, bien sûr, il y a la perte de 60. Bien sûr, il va y avoir des compensations que les Australiens vont devoir verser. Mais c'est une insulte absolument incroyable de les avoir tenus à l'écart et que les Américains arrivent comme ça et puis que les Australiens acceptent. Les Français ne peuvent pas le prendre et Macron non plus. Il s'en va dans des élections présidentielles là, dans 6 mois.
Parce que lui, il se dit, on est-tu un partenaire ou on n'est pas un partenaire? Là? Si on est un partenaire, ben, traitez-nous correctement.
Ben là, tous les Européens embarquent avec lui. Hier, là, il y a eu des déclarations de l'Union européenne et puis la présidente de l'Union européenne, qui est une Allemande, dit c'est totalement inacceptable la façon dont les États-Unis et l'Australie ont agi avec la France. Et puis l'Union européenne elle-même là a décidé de reporter une rencontre qu'elle devait avoir au niveau technologique avec les Américains en disant ben là on va voir ça plus tard et on dit à Paris actuellement que Macron pourrait décider de retirer la France du commandement intégré de l'OTAN. Hein? Macron, il croit pas du tout à l'OTAN. Il a déjà dit en 2019 que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Et c'est effectivement une organisation internationale déclinante qui se cherche souvent des missions. Et puis c'est pas pour le bien. Regardez, les Américains ont entraîné l'OTAN en Afghanistan. Hein? Et puis tout ce que ça a donné, ben, ça a donné un désastre. Et puis il y a des soldats canadiens, il y a des soldats britanniques, il y a des soldats français qui sont morts inutilement. Alors, en Europe notamment, il y a beaucoup de gens qui disent ben peut-être que l'OTAN c'est fini. En tout cas, les Français et les Allemands ont déjà commencé à se constituer un corps d'armée intégré franco-allemand. Il y a déjà
Écoute, mais les discussions entre l'Australie et les États-Unis là, qui mettent en furie la France, est-ce que ça s'est fait sous Trump ou ça s'est fait sous Biden? C'est Biden?
Non, ça s'est fait complètement sous Biden.
Sous Biden complètement. Eh bien là, il est dans l'eau chaude en maudit, hein?
Ben là, Biden, hein? Tu sais, il y avait l'image du gars rassembleur.
Ben oui.
Écoutez, regardez, je ne suis pas Trump et avec moi, je vais m'entendre avec tout le monde. Ben là, il vient de se brouiller avec l'Europe, il vient de se brouiller avec la France. Et puis
il y a le problème avec les frontières. Finalement, c'est pas réglé, là. Ils ont changé de chef, mais les problèmes structurants demeurent.
Mais les problèmes des États-Unis sont toujours là. Les problèmes politiques des États-Unis, leur organisation politique est complètement désuète. Le gerrymandering, toutes les manipulations qu'on peut faire avec la carte électorale américaine et le fait aussi qu'il y ait, hein, oublie pas, Donald Trump, après avoir gouverné pendant 4 ans en disant 30 000 mensonges durant sa présidence et toutes les aberrations aussi, il y avait encore 74 millions d'habitants, d'Américains qui ont voté pour lui. Et probablement. Et tous les sondages indiquent qu'il y a encore à peu près, presque autant d'Américains qui sont prêts encore à appuyer Donald Trump.
Alors, Normand, comme disait Arnold Schwarzenegger, I'll be back. Merci beaucoup. Merci, bonne journée, Normand. Salut.